Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Alors, nous sommes toujours ici à Baguet Piquant dans le cadre du festival Bouche-Tabec. Bouche-Tabec qui est un festival autour de la transition écologique au sens large. Nous sommes avec Aurélien Bélanger qui est responsable du service environnement à la communauté de communes du Pays d'Ol, Baie du Mont-Saint-Michel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Responsable du service environnement, un champ très large pour le coup, mais notamment de la réserve naturelle régionale du Marais de Soujal. Alors ma première question tout simplement, en quoi consiste une réserve naturelle régionale ?
Alors déjà c'est un statut réglementaire, un statut de protection, donc ça c'est inscrit dans le code de l'environnement. Derrière il y a toute une réglementation et il y a toute une gestion à mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est un statut qui nous a été accordé par le Conseil régional de Bretagne. Il y a une dizaine à peu près de réserves naturelles régionales en Bretagne. Donc à Soujal, on a la chance d'avoir ce statut-là. Et derrière, on a un programme d'action, ça s'appelle un plan de gestion, et on doit répondre de manière opérationnelle à des enjeux et à des objectifs de gestion. Donc à Soujal, les enjeux principaux, ça va être la reproduction du brochet, puisque le site et la gestion de l'eau se cale sur le cycle de reproduction du brochet. On va maintenir les niveaux d'eau sur l'ensemble de la réserve pour permettre à l'espèce du brochet d'aboutir tout son cycle de reproduction. Et en maintenant ces niveaux d'eau, forcément, ça va attirer de nombreux oiseaux, des oiseaux d'eau, et on va retrouver potentiellement une soixantaine d'espèces différentes sur l'ensemble d'une année. Avec des moments privilégiés, notamment à Soujal, c'est la migration prénuptiale, donc la remontée des oiseaux sur leur site de reproduction. Et comme le marais de Soujal est juste à 10-15 km de la baie du Mont-Saint-Michel, et que la baie du Mont-Saint-Michel, c'est un carrefour migratoire, on profite de cette situation pour avoir de belles haltes migratoires sur le site. Donc beaucoup de canards, différents types de canards, avec des effectifs assez importants pour certaines espèces comme le canard pilet. Donc voilà. Alors après, ça dépend aussi de la météo, mais quand on a des vagues de froid qui restent sur l'Europe de l'Ouest, les oiseaux vont arriver par vagues et ne vont pas repartir tout de suite vers les pays plus au nord de l'Europe. Et là, on peut monter jusqu'à 8000, 10000 oiseaux en migration sur le site.
Vous en avez parlé un peu, mais quels sont les différents types d'oiseaux, notamment, qu'on peut trouver dans les marais de Soujal ?
Alors, essentiellement, on dit les anatidés, donc les canards. Donc vous avez canard pilé, canard souché, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, bon, le colvert qui est plus connu, mais qui vient aussi fréquenter notre site. Puis vous avez des limicoles, des petits échassiers. Donc notamment la barge à queue noire, notamment, qui est bien représentée sur le site. Vous pouvez avoir du combattant varié, enfin des noms un peu guerriers. Il y a plusieurs types de chevaliers aussi qui viennent sur le site. Et puis tout ce qui est les oiseaux de mer, hein, on a aussi beaucoup de mouettes l'hiver qui viennent sur le site. Un peu de goéland. Et de plus en plus tout ce qui est ardéidé, donc tout ce qui est héron. Donc héron cendré, grande aigrette, héron garde-bœuf. Donc, ce qui fait que selon chaque saison, vous avez différents types d'oiseaux à observer sur le site.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, alors les gens connaissent, enfin les auditeurs locaux connaissent, mais est-ce que vous pourriez nous décrire justement ce site naturel, quelles sont ses caractéristiques, sa géographie et puis sa biodiversité en matière par exemple de floristique aussi?
Alors c'est un site qui fait 175 hectares, c'est un ensemble de prairies humides qui appartiennent toujours à la municipalité de Soujal. Alors la communauté de communes en a la gestion, mais la propriété est toujours Soujalaise, on va dire. Soujal a gardé deux compétences. Ce sont des vieux usages traditionnels qui sont le pâturage et la chasse. C'est un espace qui est chassé. Et le pâturage, c'est une tradition qui remonte au moins à l'époque médiévale où les paysans de la commune pouvaient mettre leurs bêtes sur le site. Alors c'était une production vivrière à l'époque, hein, c'était pas le contexte actuel. Et puis à la Révolution française, suite à des conflits entre paysans et seigneurs qui voulaient s'approprier ces terres pour avoir une rente supplémentaire. Et bien la Révolution française, ça a été tranché, la propriété de ce site est revenue à la commune de Soujal, qui a souhaité faire perdurer ses traditions en faisant un communal, un marais communal, et en autorisant les exploitants de la commune à continuer de pouvoir mettre leurs bêtes sur le site. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie pâturage, mais qui est très importante, puisque vous parliez quel type de biodiversité. Donc on a parlé des oiseaux, notamment. Ce sont des oiseaux d'eau qui ont besoin de milieux ouverts, donc pas boisés, et avec des profondeurs d'eau pas trop importantes. Il faut de l'eau, mais il ne faut pas que ce soit un lac non plus.
Nous en étions justement sur la présentation de cet habitat particulier, mais qui est en fait une multitude d'habitats, puisque vous parliez à l'instant du pâturage, mais aussi ce site de Soujal accueille donc des oiseaux migrateurs, c'est ça, notamment. C'est ça. Est-ce que vous pourriez continuer à nous parler oui, justement de ce site?
Oui, non, je disais l'importance du pâturage pour maintenir le milieu ouvert par rapport à l'accueil des oiseaux d'eau qui ont besoin de ces milieux ouverts faiblement inondés, mais aussi pour la reproduction du brochet, puisque le brochet, en fait, une frayère pour le brochet, c'est justement des prairies humides, de l'herbe avec 30 cm à 1 mètre d'eau. Et quand les cours d'eau débordent, les adultes brochets viennent sur ces zones-là pour se reproduire. Voilà. Donc c'est pour ça que le pâturage est très important. Mais par contre, depuis tout à l'heure, je vous dis, on maintient des niveaux d'eau. C'est juste un petit peu d'historique sur ce site-là. C'est qu'il a été dégradé comme l'ensemble de la basse vallée du Couesnon, dans lequel s'intègre le marais. Et comme beaucoup de zones humides du secteur, autour de la baie, et en France entière et en Europe entière, où il y a eu beaucoup de dégradation de zones humides, c'était il y a à peu près 50 à 60 ans, où on a essayé d'assécher ces milieux pour les rendre soit cultivables ou soit pour pouvoir mettre les bêtes, les animaux domestiques, plus longtemps durant la saison ou alors de manière plus précoce. Voilà. Donc il y a eu des gros travaux à l'époque, hein, des fossés de drainage, le Couesnon dont on dépend fortement, qui a été recalibré et qui a abaissé la ligne d'eau dans l'ensemble de ce complexe-là. Si vous voulez. Et donc, dans les années 2000, début des années 2000, on a profité d'un financement de la région via un contrat nature pour réhabiliter le site. Donc on a eu des vannes qui permettent de maintenir de l'eau sur le site et de se caler sur la reproduction du brochet, si vous voulez. On a une passe à poissons aussi qui permet, quand on ne peut pas ouvrir les vannes, aux adultes qui sont dans le Couesnon, de remonter via la passe vers les prairies pour se reproduire. Voilà. Donc on a les prairies et on a aussi des milieux aquatiques. Donc les prairies sont plus ou moins inondées durant l'année. Hein. Ça peut durer 5 mois, ça peut durer 6 mois. Enfin, voilà, ça va dépendre aussi de plusieurs choses. Et puis quand le marais est l'été, il est vidangé finalement, pour aussi permettre aux brochetons qui sont nés sur le marais de retourner dans le Couesnon. Eh bien, on découvre du coup au sein des prairies les milieux aquatiques. Donc on a 9 km de canaux qui sont soit d'anciens cours d'eau, soit justement ces anciens fossés de drainage, mais qui ont été réhabilités en mare linéaire, on va dire, avec des enjeux dedans au niveau floristique, mais aussi tout ce qui est macro-invertébrés, donc vous avez les insectes aquatiques, les larves d'insectes aussi qui peuvent être aquatiques, vous avez des amphibiens, beaucoup d'amphibiens.
Vous parliez justement de la réserve naturelle comme un moyen qui a été mis en place pour comment dire, compenser l'excès d'activité humaine. Justement, quelles sont les choses sur lesquelles vous agissez pour maintenir cet écosystème viable?
Alors, on a parlé du pâturage. Ça, c'est d'un point de vue opérationnel, c'est très important pour, je vous dis, hein, maintenir ces milieux ouverts. On parle de la gestion de l'eau. Donc, grâce aux vannes que l'on a sur le site, il y a tout un protocole de gestion avec des niveaux d'eau à maintenir à certains moments de l'année. Il faut aussi maintenir une continuité écologique entre le Couesnon et le marais, parce que le Couesnon, il peut encore déborder hein, et remplir notre cuvette, mais des fois, il reste dans son lit, même s'il est un peu en crue, il a des débits importants, mais il reste dans son lit. Et si on veut que les brochets puissent remonter sur le site, eh bien, alors soit on a la passe à poissons, soit la meilleure solution, c'est d'ouvrir nos vannes de temps en temps pour que les brochets remontent naturellement sur le site. Donc, tout ce qui est gestion de l'eau, pâturage. On fait, par contre, aussi de la mise en défense de pâturage. C'est-à-dire que le pâturage, il est très important pour tout ce que je viens de vous dire. Mais à la marge, c'est important aussi de pouvoir protéger les berges de nos milieux aquatiques. Donc, on a toute une gestion de clôture, de mise en défense de pâturage à faire. Derrière, ça va être la gestion principale. Ensuite, on a quand même aussi de l'entretien de milieux aquatiques. Comme ça marche un peu comme des mares, même si c'est en linéaire, on n'est pas sur des vrais cours d'eau avec un écoulement permanent, on est plutôt sur de l'eau stagnante, et comme toute mare, il y a un comblement à force. Donc il y a de l'entretien par curage, mais on fait attention de préserver certaines espèces floristiques qui sont patrimoniales, comme le fluteau nageant, qui est une espèce qui est protégée au niveau national et qui est même au niveau européen, on va dire. Et du coup, on va matérialiser les stations les plus intéressantes sur site et demander à l'entreprise qui viendra curer de contourner ces stations. Voilà. Donc ça, c'est un type de gestion adapté. Et donc, je parlais, pour matérialiser cette espèce notamment, on a des inventaires. Donc là, des inventaires floristiques. On a sur... Les espèces patrimoniales, bien évidemment, mais on peut avoir sur les espèces invasives. On n'en a pas beaucoup sur le site, mais il faut quand même avoir un regard là-dessus. Et puis, on a des inventaires sur la faune, donc tout ce qui est amphibien. On a un bel enjeu odonate aussi, donc tout ce qui est libellule et demoiselle, où on a à peu près pas loin de 60% de la diversité bretonne qui est présente à Soujal pour les libellules. Voilà. Je parlais des amphibiens, alors ce sont des espèces assez communes, mais qui sont toutes protégées au niveau national. Et dans nos milieux aquatiques, on a tout le cycle de vie de ces espèces-là, si vous voulez. Donc voilà, donc un gros enjeu de connaissances scientifiques, et on va missionner soit des partenaires techniques ou scientifiques, soit des bureaux d'études pour nous apporter cette connaissance. Et grâce à cette connaissance, on saura si notre gestion est pertinente ou s'il faut la faire évoluer. Voilà. Et le troisième et dernier enjeu, ça va être un enjeu de sensibilisation et d'accueil du public. Et du coup, on accueille des scolaires. On fait pas mal d'animations d'éducation à l'environnement en s'appuyant sur ce site pour essayer de faire comprendre aux enfants l'importance des zones humides et pourquoi on les préserve. Voilà. Et on a un équipement, c'est la Maison du Marais, qui est ouvert sur l'ensemble des vacances de février. Ensuite, qui referme et qui réouvre de Pâques à fin septembre. Donc, c'est un espace muséographique pour découvrir le site et un peu l'environnement plus global de la baie du Mont-Saint-Michel. Et du coup, c'est un site qui est ouvert au public et qui est gratuit. Et tous les après-midi, on a des animations qui sont portées par mes collègues. Et alors, ça peut être des animations pour observer les oiseaux, ou alors pour comprendre le fonctionnement du marais ou observer les amphibiens. Enfin voilà, on a plusieurs types d'animations qui sont, elles, 5 euros l'animation. Ouais, c'est payé.
Vous parliez de l'importance des zones humides, oui. De leur raréfaction aussi sous l'effet de l'activité humaine, justement. Ouais. Le marais de Soujal, pour le coup, est un exemple aussi. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous dire, d'un point de vue général, en quoi une zone humide est fondamentale d'un point de vue écologique?
Ah oui. D'un point de vue si on raisonne à l'échelle hydrographique, un bassin versant, toutes ces zones humides sont des zones d'expansion de crue. C'est-à-dire qu'elles vont, quand le cours d'eau est en crue, il déborde et ces zones vont pouvoir tamponner, absorber cette eau, la garder un petit peu et la redonner au cours d'eau, mais sur un laps de temps beaucoup plus important. Et ça, déjà, ça peut permettre d'éviter des inondations, surtout si on a des agglomérations qui se sont construites dans les bas-fonds, en fait. Voilà. Donc, zone d'expansion de crue, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, ça va avoir un rôle aussi auto-épurateur, puisque quand cette eau est en train de stagner ou d'être stockée sur les zones humides, il y a une décantation, il y a un travail aussi du sol et des bactéries qui vont pouvoir dépolluer l'eau. Alors, je ne dis pas que ça va... Il va y avoir un effet miraculeux sur l'eau qui va sortir directement, mais ça y contribue. Et ça, il faut le penser à l'échelle du bassin versant. Toutes les zones humides contribuent à cette auto-épuration. Donc c'est déjà très important. Et derrière, d'un point de vue biodiversité, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui dépendent des milieux humides, donc les amphibiens, les poissons. Donc là, sans milieu humide, c'est toutes ces espèces qui disparaissent. Et une bonne partie des oiseaux, finalement, parce qu'on a nos petits passereaux qui sont dans le bocage, dans les forêts, dans les jardins, mais on a aussi beaucoup d'oiseaux d'eau qui dépendent de ces milieux humides pour se reproduire, pour y trouver leur alimentation. Donc voilà. Pareil pour de nombreux insectes. On parlait des libellules. La larve des libellules, elle est aquatique. Donc s'il n'y a plus de zone humide, s'il n'y a plus de milieu aquatique, les libellules vont avoir du mal à se reproduire.
Voilà. Question qui me vient, l'eau, justement, du Couesnon.
Ouais.
Quelle en est sa qualité? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a beaucoup d'activités agricoles, malgré tout, autour du... Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot?
Alors, ce n'est pas forcément mon domaine de compétence, dans le sens où il y a des syndicats de bassin versant et un syndicat qui porte le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin du Couesnon. On est sur un bassin versant qui est assez dégradé. Il y a beaucoup de masses d'eau qui sont à restaurer pour atteindre le bon état écologique à atteindre d'un point de vue réglementaire. Pardon. Et du coup, ces syndicats sont en train de travailler là-dessus avec l'aide de l'Agence de l'eau qui va financer beaucoup d'actions, notamment sur la restauration de milieux aquatiques, mais aussi sur un volet sur les pollutions diffuses. Donc voilà, j'ai pas le programme en tête, mais voilà, il y a des syndicats qui travaillent là-dessus. Ouais.
La Maison du Marais, rappelez les moments où on peut aller la visiter et découvrir et partir aussi en balade.
Alors, chaque année, la Maison du Marais va ouvrir sur les vacances de février. À peu près l'ensemble des zones, donc ça fait un mois le mois de vacances pour les vacances de février. C'est là où c'est le plus intéressant pour voir les oiseaux, puisque nous, on accueille beaucoup d'oiseaux en remontée migratoire. Et du 15 février au 15 mars, c'est là où vous allez avoir le plus d'oiseaux. Ensuite, la maison va refermer un petit mois et réouvrira à Pâques. Et ensuite, de Pâques jusqu'à fin septembre, elle sera ouverte 5 jours sur 7. Actuellement, mais ça peut changer, mais elle est ouverte du mercredi au dimanche. Voilà. Et le site en lui-même, c'est un espace muséographique. Vous allez pouvoir, il y a plusieurs outils hein, qui permettent de, médias, je ne sais pas comment on dit, qui permettent de comprendre le fonctionnement, l'histoire justement du marais, les enjeux, la gestion aussi. Et puis, donc ça c'est le musée est accessible gratuitement. Et puis chaque après-midi, vous avez une sortie d'une heure, une heure et quart, pour découvrir la faune et la flore du marais. Donc là, il y a un programme qui est établi chaque année. Et mes collègues du service tourisme proposent ces animations et encadrent des groupes. Et vous pouvez découvrir notamment les oiseaux du site.
Merci Aurélien Vélanger pour cet entretien autour de la réserve naturelle.
Avec grand plaisir.
La réserve naturelle régionale du Marais de Sujal.
Juste pour terminer, réserve naturelle régionale, puisque c'est un statut hein, réglementaire et c'est un classement qui a été apporté par le conseil régional, qui est l'autorité compétente pour pour cela. Et le conseil régional bah, nous finance aussi pour porter toutes ces actions. Voilà, c'est une belle enveloppe qui nous permet de mettre en place toutes ces activités. Et depuis peu, le Marais est également labellisé espace naturel du département d'Ille-et-Vilaine, qui également va pouvoir apporter sa contribution financière ou opérationnelle et technique. Voilà. Donc on a ces deux collectivités qui nous accompagnent et qui nous suivent. Voilà.
Merci.
Avec grand plaisir.
Bien nommé la bête. celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui, il n'a rien oublié. Du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, c'est je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans le ciel, là il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. On lui était tombé dessus, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût des fleurs.
Looking through me eyes, through the sun we rise.